I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le saviez-vous? Tout ce qui est là n'est pas forcément là. En conséquence, et en forme de démonstration, le poste général est heureux et fier de vous présenter le plat du dimanche. Deux stars internationales, Wales Gaillère et Vincent Malone, de la Académie française.
Hey, salut Wales.
Hey, coucou, comment ça va?
Bah ça va, je te remercie. Ah, tu es venu avec deux personnes aujourd'hui.
Eh oui, deux, c'est toujours mieux.
Bah, voilà. Entrez, je vous en prie, tu me les présentes s'il
oui,
te plaît.
Oui, c'est Jérôme et Esther.
Hello. C'est Jérôme, le chanteur.
Voilà.
Mon Dieu.
Ils viennent de Montreuil.
Ah d'accord, ils viennent de Montreuil, directement chez moi, ils retirent leurs chaussures, ils sont très très gentils, c'est bien, disciplinés. Et on va tout de suite aller dans la cuisine si ça vous dérange pas, car comme d'habitude en ce moment, je suis un peu prêt.
C'est...
Et nous voilà dans la cuisine avec Jérôme, qui s'appelle en fait Jérôme Martinez Garcia.
Ouais, exact, c'est pas portugais, c'est plutôt espagnol lointain, on va dire.
C'est quoi espagnol lointain, par exemple?
C'est espagnol de grands-parents. Donc moi, j'ai jamais parlé espagnol.
Tu parles pas espagnol?
Non,
tu dis,
non.
Est-ce que tu prononces quand même ton nom à l'espagnol?
Non, jamais.
Mais putain, c'est quand même... c'est pourtant...
C'est ça l'intégration.
Bah, je sais pas, moi c'est une histoire ancienne, j'hérite d'un nom mais qui ne représente rien. Bon,
c'est vrai ? Rien du tout. Tu te sens pas Martinez Garcia ?
Non.
Tu sais, le côté...
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pas du tout.
Pas du tout.
C'est comme le chat dans... Tu vois un peu, moi, le chat dans...
Dans le chat à poté.
Ouais,
tu vois. Comme Shrek.
Ouais,
ouais, c'est ça.
Ah oui, oui.
Non, j'ai pas de côté Shrek.
Non, mais... Ça,
non,
ça arrive,
ok,
hein.
Ok.
Mais je savais pas que tu t'appelais
plus
Garcia.
Chef.
Ah ouais, c'est non complet.
Non complet, ok.
Ah bah, moi j'ai, tu vois, c'est.
Il a fait la recherche.
Ah ouais, ben, c'est un podcast international. Et Esther, qui s'appelle en fait Esther. Alors je sais pas comment ça se prononce. Si c'est Silbert ou Silbé.
Silbert.
Silbert.
C'est alsacien.
Ah.
C'est mon autre côté en fait. Moi je suis moitié alsacienne, moitié portugaise.
Ah, tu es portugais. Et alors,
il n'y a rien
de portugais dans Esther Silbert.
Comme quoi, tu vois, c'est pas une histoire
à
de nom.
À moins qu'on fasse Silbert.
Silbert.
ça le
poche,
fait, non?
Poche, si tu veux. Ouais.
Non, c'est sympa. Hein, d'accord. Alors, qui est là-dedans, de vous deux, le fondateur de la brasserie La Montreuilloise?
C'est moi.
C'est Jérôme.
C'est Shrek.
C'est
Shrek. Ah, j'ai pas du tout dit ça.
Non, mais comme
si,
dans
si.
Le.
Non,
mais
tu dis Shrek.
Non,
tu l'appelles Shrek. Et puis, je parlais, moi, du chapoté, moi.
Pas oui, c'est plus. Mais comme dans Shrek.
Et dans Shrek, il y a une brasserie?
Non, il y a un chapoté.
Oui, mais.
Ok.
D'accord. Enfin,
voilà, comme dans le film de Shrek, il y a aussi un personnage qui s'appelle le chat.
Poté.
Et qui a un petit accent espagnol.
Voilà.
Mais comme moi, j'aime pas trop les accents, je les fais pas.
Non.
Ça me.
Ah oui, tu n'as pas l'impression de te foutre de la gueule de quelqu'un?
Non, pas du tout. J'ai toujours l'impression de... Quand j'entends un accent, j'entends Michel Leb, moi, à chaque fois. Donc,
Ah oui ouais. Ah, ok. Ouais,
ça s'appelle du racisme, en fait.
Non, oui. Pas du tout.
En attendant, Jérôme... pardon, excusez-moi de revenir à ce qu'on fait là. Jérôme est fondateur de la brasserie La Montreuilloise, c'est ça? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs la brasserie La Montreuilloise exactement? Et où c'est tout ça? Je t'écoute Jérôme.
Alors pour l'endroit, c'est assez simple à trouver avec le nom, hein. On est à Montreuil, dans le 93, pas Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur je sais pas quoi, Montreuil 93, donc c'est relativement simple.
Est-ce que tu es dans cette fameuse rue des Bobos, la principale là?
Non. Moi, je vis dans le haut Montreuil, à côté des murs à pêche, un coin qui n'a absolument rien à voir avec le bas Montreuil.
C'est quoi les murs à pêche?
Oh là là,
wow,
il ne connaît pas les murs à pêche.
Il va falloir que tu ailles visiter.
Il faut que tu sortes un peu.
Bon, je te l'ai fait simple. Il y a quelques siècles, autour de Paris, tu avais... 17e, après. Tu avais tout ce qu'on appelle une ceinture verte, c'est-à-dire une ceinture maraîchère. C'est-à-dire tous les producteurs agricoles, horticoles de Paris, en fait, produisaient autour de Paris. Montreuil avait une spécialité, notamment tous les coteaux de Montreuil, qui avaient été petit à petit la production de pêche. Et comment ils avaient fait ça? C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on est au nord de la France, donc c'est pas forcément le climat le plus favorable à la culture de la pêche. Mais ils avaient inventé des techniques de culture. Ils élevaient des murs en chaux sur lesquels ils palissaient des arbres. Et du coup, comme ça prenait la chaleur et que ça la restituait, ça permettait que les pêches soient mûres. Et que donc ils arrivent à vendre. Et en fait, tout ce coin du Haut Montreuil, mais qui touchait les Lilas, Bagnolet, Romainville, etc., ça avait été beaucoup autour de cette culture maraîchère de pêche, et ensuite de pommes, de poires, etc. Et il y avait comme ça des centaines et des centaines de kilomètres de murs. Enfin, quand on regarde, on peut faire une petite recherche sur murs à pêche, on voit des cartes, c'est complètement hallucinant. On voit des centaines de jardins et de murs un peu partout. Et donc, il est resté. Après, tous les années 50, 60, toute cette agriculture s'est un peu cassée la gueule. Et au fur et à mesure de l'urbanisation, notamment du 93, cette zone-là s'est réduite. Il est resté une vingtaine d'hectares à peu près. Bon, une partie a été classée dans les années 90, mais le reste était un peu... est encore en fait occupé, soit par des assos, soit par des gens du voyage, soit par des squatteurs. Bon voilà, et c'est resté un village gaulois où il y a pas mal de gens qui font des choses assez passionnantes en termes de culture, d'agriculture, voilà.
D'accord, donc ça, c'est ce qu'on appelle le mur de pêche. C'est un endroit qui est maintenant une espèce de lieu de conservation, renouveau, créativité,
patrimoine,
truc comme ça.
Ouais.
Okay.
Plein de choses.
Et c'est archi
ouais,
plein de choses. Et il n'y a que moi qui ne connais pas
non,
ça.
Et c'est toi. Aussi le nom d'un quartier, du coup.
Le quartier des murs à pêche.
Le quartier des murs à pêche.
Ok. Donc vous l'aurez compris, je suis avec Jérôme Martinez Garcia, mais également avec Esther Silbert, donc, qui n'est pas donc, la fondatrice de la brasserie La Montreuilloise.
Point du tout. Moi, à la base, je suis cuistot.
Cuistote, on dit.
Ouais, je suis cuisinière. Mais quand je dis cuisinière, le problème, c'est que les gens, ils pensent au meuble.
Non, si tu dis je suis une cuisinière, je pense pas au meuble.
Moi, je suis cuistot et j'ai monté un restaurant il y a quelques années où...
Tu vois, quand tu dis j'ai monté un restaurant, bah, je pense pas non plus à des cochonneries.
Où Jérôme nous fournissait de la bière et un jour, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un projet ensemble. Et donc, on est en train d'ouvrir un lieu ensemble.
Un lieu, tu veux dire un poisson?
C'est bon.
Voilà. J'essaie de mettre un peu d'humour dans ce podcast pour avoir un auditeur.
C'est vrai
en plus.
C'est super triste.
Ça nous en ferait deux.
Tu
es en train de monter un lieu.
On ouvre un lieu dans 4 mois, 3 mois.
C'est le lieu pour lequel j'ai vu un espèce de site où on demande de l'argent, c'est ça?
Ouais, ouais, on braquait ça. Des gens. Ouais.
Et ça a marché? Ça a fonctionné, cette demande d'argent?
Ça a super bien marché, ouais. On a récolté 12 000, 12, presque 13 000 balles.
Comment il s'appelle? C'est un site Mimosa,
Mimosa
ou je sais pas quoi. Mimosa, c'est ça.
C'est un site de financement participatif.
D'accord.
Financement autour de l'agriculture et de l'alimentation.
Et des gens vous donnent de l'argent sur ce site en fonction du projet que vous présentez.
C'est ça.
Et ils attendent quoi en retour?
Principalement de la bière et du café et notre reconnaissance éternelle. Ce crowdfunding, on l'a lancé pour donc, nous aider à monter ce lieu qu'on va monter avec aussi une torréfactrice de café.
Qui n'est
installée
pas
à Montreuil,
Julie
qui n'est pas là aujourd'hui. Julie Caron.
Julie Caron.
Elle n'aime pas la radio? C'est ça? Non, je demande.
Non, en fait, elle ne vous aime pas, vous.
Ok.
Julie Caron, elle fait du...
café. Elle est torréfactrice de café.
Toi, tu es cuisinière, mais pas le meuble.
C'est ça.
L'autre truc qui est dans la cuisine.
C'est ça.
D'accord. Et toi, tu fais de la bière.
C'est ça.
Et ensemble, vous allez faire...
un lieu dans lequel il y aura la brasserie, la torréfaction de café et une boutique vente direct producteur.
C'est pas du tout restaurant?
Pas tout de suite. De toute façon, là, 2021, ça sert à rien d'ouvrir un restaurant. On est d'accord.
J'ai ouï dire qu'il n'y avait jamais eu autant d'investissements dans les locaux pour des restaurants, etc. que cette année.
Pour faire des...
C'est les riches qui font
pour
ça.
Faire
des dark kitchens.
Des dark kitchens.
Ouais,
c'est ça, en fait, l'idée. Hein.
Et faire travailler des livrous et...
Quoi? Tu connais les Dark Kitchen?
Oui, je connais les Dark Kitchen.
Il s'est renseigné d'après la dernière émission.
Je sais pas ce que c'est.
Tu sais pas, toi?
Non.
Eh ben, Jérôme, je vais t'expliquer. Tu vois, parce que moi, je suis comme ça. Il faut remonter en 1522, vois-tu? À l'époque, tous les trucs de livraison qui vendent de la bouffe par correspondance, normalement, ils vont chercher dans des restos, sauf que pas du tout. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des cuisines à eux, dans lesquels ils font les plats des restos qu'ils vendent pour les avoir plus vite, plus accessibles, moins chers.
Voilà. Et de tous les restos
et
qu'ils
de
vendent,
tous les
surtout.
Restos.
C'est surtout ça.
Donc ils font de la pizza, du sandwich,
du sushi.
Non, en l'occurrence, ils ne feraient pas de la bière.
Et de la soupe.
Mais si jamais tu achètes un hamburger de chez Joe, un machin de chez Truc, etc., au lieu qu'ils aillent le chercher là-bas, ils ont tout recentré comme s'ils faisaient une espèce de super Amazon bouffe.
Ouais.
Tout est recentré.
Il y en a à Montreuil.
Et il y en a plusieurs à Montreuil, ouais.
Et oui, nous sommes dans ma cuisine et on parle d'un tas de choses, sauf que de menu. Et pour cause, parce que je suis avec deux personnes très intéressantes qui n'auraient presque pas dû apporter une recette, vu qu'ils ont plein de choses à raconter sur ce qu'ils font déjà comme recette au quotidien, puisque l'une est cuisinière et ce n'est pas un meuble. Et l'autre, eh ben, il est brasseur, mais ce n'est pas Claude.
Ni Pierre.
Ni Pierre, mon préféré, perso.
Évidemment.
Hein, pour faire une recette...
Bon, après, on y va.
Esther, c'est toi qui as apporté une recette. C'est quoi la recette?
Attends, t'as fait du taf.
Alors, la recette, c'est une recette portugaise d'un plat que j'ai découvert quand je suis allée une fois en vacances là-bas. Et c'est super bon. C'est un peu alliance terre-mer et tout ça. Donc, c'est un porc au coq.
Non.
Le porc.
Ouais.
J'ai un enfant de 2 ans, donc je passe mon temps à imiter les bruits des animaux.
Ah oui, bien sûr.
Et la coque.
Tu sais comment fait l'éléphant?
Vas-y, envoie.
Non, je sais pas le faire.
Moi, je sais faire le cheval.
Non, ouais.
C'est bizarre ton cheval.
Non, mais ouais. Non, ça marche.
C'est de la
mais
super là, merde. Me... Non, mais c'est la...
Ah ouais, ouais.
Ah oui, honnêtement, quand il fait ça.
Oui.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait des bruits différents en fonction des langues.
Ouais.
Genre le chien en allemand, il fait vao vao.
Ouais. Et le coq en basque, il fait kourou koukou kou.
Et je crois qu'en allemand, il fait kirikiki.
Kirikiki.
C'est incroyable.
On est dingue.
On fait une autre émission.
Évidemment. Alors, dès qu'on s'éloigne du mur à pêche, alors là, pou, la conversation d'intéresse
plus Jérôme.
On y va.
C'est vrai qu'on a faim.
On a faim.
Allez, on commence.
Le titre de la recette, c'est...
Le porc au coq ou carne alentejana. C'est servi dans un plat plutôt en terre cuite. C'est cette terre un peu rouge, ils font beaucoup de vaisselle au Portugal comme ça.
La terre cuite quoi en fait.
Et dedans, vernis.
C'était bien terre cuite comme terme.
Et dedans, t'as des petits morceaux de porc, de la viande, de la...
Comme tu racontes
des
bien.
Pommes de terre frites, les coques aussi avec des herbes et le bouillon aussi des coques qui est rajouté dessus.
D'accord.
Et c'est servi avec des petits légumes pickles.
Ah, pickles, qu'on met à côté du coup.
Bah, ça dépend des maisons. Il y en a qui.
D'accord, donc c'est
dedans.
Plutôt un plat familial.
Ouais, c'est un plat qui se sert.
De milieu de repas, quoi. C'est que.
Ouais,
même
je pense
pas.
Qu'après, t'as plus faim.
Ouais, c'est pas de milieu de repas. C'est un plat pour 2 jours à peu près.
C'est celui qu'on mange à 8h du matin, de toute façon.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah, ok. Alors vas-y, dis-moi comment on fait ça. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient?
Les ingrédients.
Alors bon, il faut de la viande. Concrètement, tu prends. Là, c'est très marrant parce que. 600 grammes de viande plus 400 grammes de coq, ça veut dire que déjà tu dépasses le nombre de grammes par personne recommandé.
C'est à peu près pour combien de personnes ça?
Là ils disent pour 4, mais pour moi tu manges pour 6 dessus facilement. Quoi. Bref.
D'accord.
800 grammes de pommes de terre, 2 gousses d'ail. Ensuite il faut que tu trouves une sorte de crème de piment, ça s'appelle massa de pimento.
Massa de pimento.
De pimento.
D'accord.
C'est, en fait c'est du piment concassé, tu peux aussi le faire chez toi.
D'accord. Et si on n'en a pas
si t'as le temps. Du paprika, ça marche très bien.
Paprika. Joli comme nom, paprika.
Paprika, c'est...
Tu vois, j'en ai connu des filles, mais aucune paprika. C'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir dire, tiens, paprika, viens dans mes bras. Ben non, jamais.
Elle aurait pimenté ta vie.
Oui, oui. Ça... Oh,
oh
bon, alors paprika, d'accord.
Tu vas venir faire l'émission à ma place. Non, mais parce qu'il a, je pense qu'il apprécie
il
ton humour.
Il a besoin de voilà.
Et que...
Bah,
non, vas-y. Que, voilà. Bah, vas-y, continue.
Du persil, du laurier, de l'huile d'olive. Hein, toujours, il faut de l'huile d'olive pour... Du vin blanc sec, du gros sel. Et
de
ensuite,
l'huile d'olive, du vin blanc sec, du gros sel. Okay.
Et du sel et du poivre, tout simplement. Voilà.
D'accord.
Il y a toute une partie de la recette qu'il faut faire la veille.
D'accord.
Il faut faire mariner la viande avant.
Bah alors du coup...
On ne mangera pas.
Non, mais j'ai déjà fait mariner les choses. C'est déjà prêt.
On dit qu'on a déjà fait mariner.
Voilà. On dirait que...
T'en as dans le chou, toi. Hey. Tu ne serais pas cuisinière. Les parties de la fabrication, c'est marinade,
ouais.
Puis cuisson.
Cuisson, ouais, c'est ça.
Et il n'y a pas tellement de découpe ou de trucs comme ça.
Il faut éplucher des patates, faut
800 découper. Grammes de pommes de terre.
Ouais.
C'est gros. Ouais, ok.
Ah, ça fait beaucoup. Mais je te dis, les Portugais, ils ont tendance à faire.
Ouais, non,
et les pommes de terre, tu vas en faire des frites.
Des frites.
Ouais. Des frites.
Ouais.
Que tu vas mettre dans l'huile.
Non, au four.
Au
c'est
four.
Un peu moins gras.
T'appelles ça quand même des frites, toi. Rien ne te
ouais,
gêne.
Ouais, je sais.
Bah, des frites au four.
Des frites au four.
Mais non, mais ça s'appelle pas des frites.
Je sais.
Si.
Oh, mais t'es
belge.
Si.
Ou... Il est belge.
Non, non, mais.
Il est auvergnat, mais.
Ah, non, mais je suis. Attends. On peut pas être à la fois respectueux du mur à pêche et chier sur les frites. Il y a quelque chose là-dedans, surtout que pêche.
Bon,
bref.
Mais moi, je t'attends, Esther.
Donc, on coupe la viande en dés, pas trop petit. Sinon, ça va trop sécher. Ça
quand
va...
tu dis un dé, c'est un dé, c'est 2 cm sur 2 cm oui. Ou c'est plus large que ça?
Ouais, allez.
Ah, quand 4. Tu montres avec tes mains, c'est très radiophonique. C'est 4
mais
quoi.
J'essaie de me rendre compte.
Donne
tu
des
sais.
Missions aussi. Est-ce qu'il faut me donner à moi, à Jérôme?
Non, mais attends, voilà. Là, on en est à découper.
Ah, pardon,
mais
oui, mais qui découpe?
Bah, je sais pas, vas-y.
Ok, ouais, d'accord, je
découpe.
Le sais.
Découpe la viande.
Alors, tu découpes en
okay,
dé.
Pas trop petit, parce que sinon, ça va sécher et c'est pas bon.
Ok.
Ensuite, tu les mets dans le saladier.
Ok.
Et tu mets deux cuillères. Comme ça.
Mais celui-là, t'as que celui-là, de toute façon.
Avec deux cuillères à café de masa de pimento, tu sais, la crème de piment.
Attends, ou paprika. On les met deux avec.
Tu mets tout dedans.
On met le piment par-dessus.
Ouais.
D'accord.
Tout dedans.
Ok.
Toi, tu vas couper les gousses d'ail, tu les.
Toi, c'est Jérôme.
Ça pue, après, on en a plein les doigts, quoi.
C'est bon, là, il y a tout. Après, tu mets du citron sur tes doigts et ça casse les odeurs.
Sinon, il y a le couteau en aluminium.
Ouais, ça marche.
Je l'ai fait, ça marche.
C'est vrai.
Mais quoi, qui fait quoi?
Pour arrêter de sentir fort des doigts.
Tu te coupes les doigts
avec un gros couteau en aluminium. Voilà. Tu te coupes les doigts.
Non, tu fais quoi exactement?
Tu fais ça en fait, non? Tu frottes un peu.
Tu frottes tes doigts avec le couteau
ouais,
sur le couteau.
Sinon, sur une feuille d'alu. Et okay. En fait,
personne
paraît...
n'a envisagé de se laver les mains.
Si, c'est bien.
Oui, mais ça reste. L'odeur reste après.
Mais en même temps, là, c'est en début de recette, donc c'est pas grave. Tu vas manipuler d'autres trucs.
On peut avancer, s'il vous plaît.
Sinon, je me suis sur tes murs. Il n'y a pas de problème.
C'est bienvenu.
Et puis on va mettre
les
feuilles de laurier aussi à l'intérieur de cette préparation.
D'accord.
Un petit coup de sel, un petit coup de poivre.
Et dans quoi ça marine alors?
Et ben après on va mettre le vin dessus.
Et oui.
On met du vin parce que excuse-moi de te déranger Esther, mais tu ne m'as pas parlé de vin dans les ingrédients.
Si, j'ai dit 25 centilitres de vin blanc sec.
Ah, d'accord, c'est ça que t'appelles du vin, 25
centilitres. Il a déjà tout bu avant qu'on arrive.
25
centilitres,
oui, 25 centilitres de vin blanc sec, c'est vrai que c'est vite bu. D'accord, c'est ça. Ok, ok,
on a une gorgée à peu près.
On lui avait bien dit qu'il fallait du vin, mais il n'avait pas pensé à le garder.
Tu mets bien les épices sur la viande et il faut bien malaxer. Il faut que les épices, elles se posent bien dans la viande.
Si tu mets trop vite le vin... Quand Esther malaxe, ça malaxe.
Si tu mets tout de suite le vin, ça va pas aller.
Non.
Bref. À la fin, ok.
On malaxe bien la viande avec le sel, le poivre,
les
paprika.
On fait rentrer tout ça dans la viande.
Ou le pimento. Et le laurier.
Et après.
Ensuite, on met le vin blanc.
Et là, on laisse.
On couvre.
On couvre.
Avec un couvercle ou je sais pas quoi.
Et on le laisse.
Et on met au frigo.
Pendant.
Ah, on met au frigo.
Minimum 3 heures.
Minimum 3 heures. Très bien.
D'accord.
Et si tu mets la veille, c'est mieux.
Et ça, on est d'accord que tout ce qu'on vient de faire. On l'a fait hier.
C'est ça.
Bah, ou le matin.
Ou le matin.
Oui, mais là, on l'a fait hier.
Oui, on l'a fait hier.
Donc, toutes tes gesticulations à dire qui fait quoi, que qui quoi, c'était particulièrement intéressant parce que ça a été fait hier.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Attention, nous sommes un jour après. Et maintenant... Ouh là là, mais c'est Jérôme et Esther, ils ont apporté leur marinade. Oh, avec un beau film par-dessus, et c'est un peu frais, ça sort du frigo. Ouh loulou, on s'assoit sur la table de la cuisine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Esther?
On va faire dégorger les coques. Pour ça, il faut de l'eau simple, du robinet Château-la-Pompe et du gros sel. Et il faut faire ça minimum 3 fois avec un temps de 20 minutes.
Pour le sable.
Okay. Ouais.
C'est-à-dire comment tu fais?
On prend nos coques,
on les met dans
tu
quoi?
Tu mets dans le saladier.
Dans le saladier, toujours le même?
Non,
un autre.
Un autre saladier, enfin, toi qui m'écoutes. T'es con ou quoi? Oui.
Tu mets deux grosses cuillères à café, cuillères à soupe, pardon.
Ah, moi j'ai
sel.
Que des petites cuillères à soupe.
Bah alors tu
c'est
en mets
4.
Tu mets de l'eau là, elle croit que c'est la marée haute, donc du coup elle s'ouvre.
Voilà.
Et là elles enlèvent leur sable.
D'accord.
Tu vides.
En général, quand tu crois que c'est marée haute, tu t'ouvres. Non mais je...
les coques.
Les coques.
Les coques.
Pourquoi
seulement les coques.
En général,
moi,
tous les crustacés.
Non mais je te écoute, certes, gentil.
Pas tous. Bah les moules
si,
peut-être.
Ouais,
hein.
Sans doute.
Ah, ouais. Les moules aussi. Ouais,
les moules aussi. Pas les huîtres.
Les huîtres, elles sont pas dans le sable.
Ouais.
Les coques, c'est des fruits de mer de sable en fait que tu ramasses à pied. Mm-hmm. Donc.
Il y a une autre recette avec les coques, c'est les pâtes à la vongolais.
Vongolais.
C'est très très bon.
Vongolais.
Je ne sais plus, ouais.
Okay. Et nous sommes dans la cuisine avec Jérôme. Oui, Jérôme qui s'ennuie un petit peu parce qu'il est loin de sa bière. On va en parler de sa bière. Ne t'inquiète pas, Jérôme.
Et on est avec
Esther, la cuisinière qui ne ressemble pas à un meuble et qui nous explique avec beaucoup de patience le porc aux coques ou carné à la gentiana.
À l'Antejana.
Et là, on en était à faire dégorger des coques, mais ça, c'est fini. Là, elles sont dans le saladier, elles ont dégorgé comme des malades.
C'est ça. Hein. Et là, on épluche les patates.
Et
on les a fait cuire avant.
Non.
Ok, pardon.
Bah non, pourquoi tu
je sais pas.
T'arrives toujours à faire une connerie qui me prend du temps au montage, toi. Donc, Wael, toi, tu épluches les patates.
C'est ça.
Et que
800 grammes, hein, 800 grammes, j'épluche. Allez,
on y va.
Et il faut les couper en dés. Pas trop petit non plus parce que sinon
tu fais
ça
des
va
dés se... parce qu'on va mettre des dés au four.
Des dés au four.
Ouais. Et, voilà. Hein, ça te fait rire ça, des dés au four. Ok, super.
Elle dit continue.
Bon, ensuite tu les mets au four pendant 30 minutes à 200 degrés avec juste deux cuillères à soupe d'huile d'olive dessus. Et c'est parfait.
Des grosses et des petites cuillères.
Ah, là, tu te débrouilles. Okay. Je m'en fiche. Et tu les retournes en milieu de cuisson. Voilà, à peu près.
Bon, ça prend un tout petit peu de temps.
Ouais, ça prend un peu de temps, c'est 30
minutes. Alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, nous autres? Ah, Jérôme a apporté quelque chose.
Et il a apporté un vinyle.
Ah, c'est quoi ce vinyle?
Bah, c'est Johnny, évidemment.
Johnny. Ouais. Tu connais Johnny?
Mais
je connais pas, Johnny.
Non,
connais,
non, pas lui. Pas lui.
Non,
pas lui.
Ah, moi, non, c'est pas cette chanson que je préfère, c'est la chanson Allez les Bleus, on est en finale. C'est pas ça?
On est tous ensemble.
On est tous ensemble, ouais.
Ok.
Non, c'est pas lui. C'est pas lui.
Non,
c'est évidemment pas lui.
C'est Depp?
Non. C'est ni Johnny, ni Johnny Depp.
Cash?
Ah, ça pourrait.
Ah, ça pourrait, ouais.
C'est pourrait, ça s'en rapproche
Johnny
un
Cash.
Peu. C'est le Johnny Cash du 93.
Du 93.
Ouais, c'est
Johnny Cash, c'est quand même Pretty Voice, quand même. Hein.
Mm-hmm. Bah, lui aussi.
Ouais, pas mal.
Ah ouais?
Ouais, Johnny Montreuil.
Johnny Montreuil.
Ouais.
Qui nous chante quoi, là?
Il va chiner la ferraille, je crois.
Quoi, ça?
Chiner la ferraille.
Tu parles pas le Montreuilois?
On écoute donc Chiner la ferraille par Johnny Montreuil. Merci, Jérôme.
1, 2, 3. Yeah, ferrailleur, au chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau Qatar. Elle fait peur, flipper mon accent qui vient d'ailleurs. T'es marrant, on s'est chassé de partout. Bon, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Gratter pour un bifton tous les jours. Gratter pour la maison, gratter de la lune, des mouchoirs. Pour tous mes gosses et sans papa, mes biftons et ce qui reste de mes talbins. Cherche pas à la carte, ça vient de tes poubelles, mon copain. Si on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, j'suis ferrailleur. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau Qatar. Oh, chiner la ferraille. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion.
Jérôme, après avoir écouté ce morceau, que je te remercie de m'avoir fait découvrir, Chiner la ferraille, que désormais je chanterai tous les matins en chinant,
peux,
pourquoi pas, de la ferraille. On voit beaucoup de gens chiner d'ailleurs, de plus en plus maintenant. On n'en voyait plus dans Paris, maintenant ça recommence beaucoup la Chine.
Moi j'aimerais bien que tu m'expliques qui est Johnny Montreuil pour toi.
Ah d'accord, ok.
Ouais, j'ai une question.
Ah bah ok, vas-y.
Non mais juste pour situer, parce que c'est quand même un artiste...
Je connais pas l'histoire de Johnny Montreuil, parce qu'en fait moi je l'ai rencontré, bah, il s'est trouvé que pendant... la brasserie en fait s'est créée dans les murs à pêche, Johnny Montreuil habitait juste à côté, dans sa caravane. Et puis moi je l'ai vu quelques fois en concert, c'est un peu une personnalité de Montreuil quand même, parce que... il chante un peu la banlieue, il a un style qui est bien à lui, c'est quand même un rocker, voilà, et puis c'est un joueur, c'est un musicien de bar, moi j'aime bien ça, c'est un vrai musicien de bar, et il habite toujours dans les murs à pêche, dans sa caravane, et il joue pas mal un peu partout, quoi. C'est, moi je sais pas, je trouve que c'est une personnalité qui traduit bien cette ville en fait.
Ouais, non mais c'est ça, pardon, voilà.
Toi, tu le connais bien, ouais.
Je connais bien, ouais, non, c'est-à-dire que je l'ai vu plusieurs fois en concert, mais... trouve ça intéressant, comme tu le dis, c'est vraiment, ça représente l'âme de Montreuil, et, enfin, de ce qu'il en reste en tout cas.
L'âme de Montreuil est vivante, elle se renouvelle tous les jours.
Elle se renouvelle, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir toujours là. Et, moi j'adore sa musique en tout cas. Mm. Bon, c'était pas très intéressant ce que j'ai dit, mais.
Si, c'est bien. Jérôme, toi tu fais de la bière, qu'est-ce qu'elle a de particulier de ta bière?
Elle est bonne.
D'accord.
Déjà.
Ça c'est bien, ouais, un peu comme Simone. Et alors, et à part ça?
Quoi te dire, je sais pas. Des choses sérieuses, tu veux que je te dise?
Oui, la particularité de ta bière par rapport à d'autres. Surtout pour les néophytes comme moi, c'est
ouais,
les gens qui connaissent pas
après,
trop.
Bon, déjà, la bière artisanale, c'est quand même un peu particulier parce que c'est quand même des styles qui sont très différents, avec des goûts plus marqués, parfois plus amers, etc. Enfin, on joue sur des saveurs beaucoup plus. Tu vois, Jérôme m'a ramené des bouteilles.
Donc je vois. Je vois de la grisette.
Ouais, la grisette.
Je
porteur.
Vois. Attends, excuse-moi, de la smoked porteur.
Bel accent, c'est ça.
La porteur, c'était pas une bière brune.
Refais l'accent.
C'est pas une bière brune.
Ouais, c'est une bière brune. Ouais.
Il a du mal avec l'accent anglais.
Smoked.
Smoked porteur. Il y a de la montreuilloise.
C'est une blonde.
Non, il y a marqué rousse, moi, dessous.
Ah oui, rousse, pardon.
J'ai une rousse. Et j'ai une montreuilloise blonde.
Ouais, je t'en ai ramené quelques-unes.
Bah, c'est déjà hyper sympa, mais alors, c'est quoi leur particularité?
Moi, je suis en bio. Je suis même plus qu'en bio, je suis en
bio,
bio plus, c'est Nature et Progrès, c'est un plus vieux mouvement bio en France, et c'est un
label,
c'est une association, donc c'est une démarche qui est plus complète que simplement un label où tu respectes un cahier des charges, c'est un engagement un peu social environnemental.
Une philosophie quoi.
Ouais, c'est un peu, il y a un côté philosophie qui se traduit dans la manière de faire, dans le fait de travailler au plus près sur plein d'aspects, producteurs et tout ça. Moi, mes bières sont pas du tout dans les grandes surfaces. Je fais que des magasins bio, des épiceries de magasins locaux, des lieux culturels, des lieux associatifs essentiellement. Donc c'est une démarche un peu spécifique qui se traduit un peu dans les bières parce que du coup tout est en bio. Et
sur la bière, ça change quelque chose au goût le fait que ça soit bio?
Non. Après, forcément, les matières premières qu'on va utiliser sont un peu plus difficiles à trouver. C'est pas les mêmes, donc voilà, il faut qu'on adapte les bières à ça. Mais après, sur le goût d'une bière, ça se traduit pas forcément. C'est juste une démarche spécifique dans la manière de produire et de vendre ces produits. Quoi.
Juste, où se passe le pas bio dans une bière?
Ah bah dans tout ce qu'on va mettre pour faire une bière. Le malt, le houblon, les ingrédients supplémentaires qu'on peut utiliser. Les levures bio, ça n'existe pas vraiment dans la bière, mais c'est plutôt tout ce qui va être utilisé pour faire la bière, c'est-à-dire des céréales, du houblon, quoi, essentiellement. Mmh. Donc ça, si c'est cultivé en pas bio, ben, tu utilises des produits qui ont été cultivés de manière chimique.
Et ton houblon, il est cultivé où, du coup? En proximité aussi ou
De ce qui peut exister en bio en proximité, c'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant, mais il y a des houblonnières en Île-de-France là, qui existent maintenant, depuis 2-3 ans.
En Alsace, c'est pas besoin?
Ouais, alors l'Alsace, historiquement, des houblonniers, il y en a partout, en fait, maintenant, qui s'installent depuis quelques années, notamment en Île-de-France. Donc, petit à petit, le but, ça va être de s'approvisionner que auprès d'eux, quoi. Mais en attendant, moi, j'ai des houblons allemands, anglais.
D'accord. Donc, tu fais de la bière, la spécificité, c'est pas super clair pour moi.
Non, parce elle est sur le bio, parce qu'après, sur le type de bière, en réalité, quand t'es brasseur, tu peux faire des dizaines et des dizaines de bières différentes. Là, je t'en ai amené 4, mais en fait, moi, dans ma gamme courante, j'en ai plus d'une dizaine. Plus des bières éphémères qu'on va faire une fois de temps en temps, etc. Donc, en fait, sur les types de bières, t'es quasiment infini. C'est-à-dire que t'as des tonnes de styles anglais, allemand, autrichien, tchèque, polonais, américain, etc.
Du vin, en fait.
Ouais.
C'est pour ça que je dis que c'est presque dommage qu'on ait fait une recette parce qu'on pourrait parler de la bière. Hein,
on peut arrêter, hein.
Non, continue.
Non, la recette. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. La bière, enfin, dans sa diversité, je veux dire, qu'est-ce qui fait la différence entre une bière et une autre, etc. Donc, on va pas en parler.
C'est les styles, les ingrédients. La manière de faire, il y a énormément de variétés possibles, tu peux mélanger des trucs, puis après on peut parler sans fin du monde de la fermentation. La fermentation, c'est le vin, la bière, le champagne, le fromage.
Et là, tu me dis que tu vends ça dans les magasins bio et les associations, les trucs
comme
ça. Non,
épicerie de produits locaux, t'as beaucoup d'épiceries qui
sont. Pour moi, c'est un peu différent déjà, parce que les magasins bio, pour moi, ça évoque quand même trucs plutôt chers en général. Non mais me fais pas comme ça, Esther, c'est ce que je pense.
Mais c'est radiophonique, t'as pas besoin de commenter.
Non mais justement, je voudrais savoir si je me trompe ou pas, parce que j'ai vu L'Ogresse, par exemple, qui fait les délices de L'Ogresse.
Vous connaissez?
Dans le 20e?
Non.
Ah non.
À la Courneuve.
La Courneuve.
Elle fait des petits pots.
Elle fait des super bons produits où elle se défonce, etc. Ouais. Elle gagne pas un rotin, ouais. Enfin tout ce qu'il faut, etc. Comme il faut. Mais elle vend que dans des magasins pour bobos, en fait.
Bah oui.
Parce qu'il y a qu'eux qui peuvent acheter ces produits-là. Ouais. Parce que ça revient cher par rapport à ce que tu achètes de pourri, en fait, ouais. En quelque sorte. Ouais. Quand tu fais des choses bonnes, tu arrives souvent à des produits qui sont quand même plus chers que ce que tu trouves.
La bière de Jérôme, elle est pas très chère.
Non, par rapport à ce qu'on va trouver. Après, ça reste un produit qui est plus cher à fabriquer que la Kronenbourg. Mmh. Enfin, je veux dire,
c'est pour ça que je te demande.
Mais le prix c'est 2 à 3 fois meilleur.
Ouais, et
donc
même,
le prix est peut-être.
Je te dirais que c'est moins cher d'acheter une bière à la pression à la brasserie que d'aller se faire une terrasse à Paris. Quand il y avait des terrasses à Paris, on pouvait boire des bières.
Oui, non, mais c'est pour comprendre juste le fonctionnement entre la démarche que vous avez, qui est vraiment admirable, et puis la réalité du marché où finalement, moi, si je prends une grisette, si je suis amateur de bière, je vais prendre une grisette, mais peut-être que la grisette me coûte le même prix qu'un pack d'Heineken, quoi.
Non,
tu vois, donc,
non, justement, l'idée c'est que nous, les gens, on le vend quasiment en direct producteur. Principalement, il y a une grosse partie de notre vente, on le vend en direct producteur.
Donc il n'y a pas d'intermédiaire.
Donc les gens, ils le touchent à finalement pas si cher que ça.
D'accord.
Et du coup, ça. Pour moi, ça devient un truc populaire, quoi. Enfin, tout le monde peut l'avoir.
C'est ce que j'essaye de
L'idée, c'est que tu cherches la brasserie qui est pas loin de chez toi, et du coup, tu auras de la bonne bière au même prix que ta croix que t'achètes.
Moi, on a plein de gens qui viennent prendre des bières et qui vont te dire, moi, quand il fait chaud, j'ai besoin de me désaltérer, je vais prendre un pack pas cher, et puis de temps en temps, je vais me boire une bière un petit peu plus chère parce que je sais qu'elle est meilleure. C'est comme les gens qui peuvent se boire, je vais dire une connerie, un rosé pêche l'été, c'est absolument infâme, et puis de temps en temps ils vont s'acheter un bon Bordeaux, quoi, tu vois. Enfin, ça c'est un peu du même ordre. Après, la différence de prix, elle est là, mais enfin ça reste quand même.
C'est pas non plus.
Enfin, c'est faut, tu vois, une bière comme ça coûte moins de 3 balles. C'est pas
mais
non plus.
Là où ça m'intéresse, c'est qu'il y a toute une démarche d'un tas de personnes qui font ce que j'ai jamais fait de ma vie, moi, c'est-à-dire s'investir dans quelque chose d'un peu intéressant. Et qui font des produits comme ça, mais ça va un peu à contrario de ce qui se passe dans le monde, c'est que les gens ont moins d'argent. Donc je me demande comment on trouve des débouchés pour ces produits.
Ouais, je pense que c'est
vrai. C'est pas si vrai que ça, mais.
Je
comprends ce que tu veux dire, mais de manière générale, c'est pas qu'une question de bobo. En fait, les gens ils se préoccupent de ce qu'ils mangent. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'une question de bobo. Après, la différence, c'est qu'effectivement, les gens qui ont les moyens vont aller dans des magasins où ils peuvent payer plus cher des produits dont ils savent l'origine et la qualité. Quelqu'un qui a moins de moyens, il va aller dans ses lieux habituels en essayant de trouver des choses dont il sait que c'est un peu meilleur, quoi. Donc, non, je pense que tout le monde se préoccupe de ça. Après, effectivement, c'est comment tu consommes. Du coup, ça pose plein de questions pour les gens sur consommer moins mais mieux, c'est quoi faire ses choix, continuer à manger de la viande dégueulasse ou pas. Enfin c'est des choix que font les uns et les autres. Maintenant, je suis d'accord, il y a quand même une fracture et que les gens qui ont des moyens, ils sont peut-être plus enclins à se poser la question de ce qu'ils consomment. Mais bon.
Mais par rapport à d'autres bières d'Île-de-France qui existent, quand même, je trouve que ta bière, elle est plus populaire dans le sens où quand on allait directement à la Montreuilloise, quand même, on voit une mixité qu'on voit pas dans d'autres brasseries qui ont le même style de choses, en fait, même style, des brasseries qui peuvent accueillir du monde. Quand même plus de mixité de
ça, après, c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi ce que tu proposes aux gens, quoi. C'est-à-dire que la bière, il y a plein de brasseries, il y a des brasseries qui proposent des trucs très pointus, des bières de geek, des trucs où il faut avoir fait des tonnes de recherches et d'études pour comprendre. C'est comme dans le vin, tu vois, t'as des gens qui disent, moi j'aime bien un bon rouge, et t'as des gens qui vont te parler de cépage, quoi. C'est un peu la même chose dans la bière. Donc moi, je me suis juste dit, si je fais une brasserie, il faut aussi que je touche des gens qui sont pas forcément des connaisseurs de la bière, mais qui vont venir goûter des trucs. Voilà, ils vont se dire, je connais pas la bière, mais je vais me laisser tenter par un truc. Donc c'est comment, en fait, t'amènes les gens à consommer d'autres trucs, quoi, être curieux, en fait, de ce qu'ils vont boire, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, effectivement, tu fais du bière que pour les gens qui sont hyper connaisseurs en bière. Et donc tu es dans l'entre-soi du geek. Ça m'intéresse pas.
Ça fait combien de temps que tu fais ça?
7 ans.
7 ans.
Ouais.
C'est encore jeune.
Vous n'étiez pas nombreux il y a 7 ans.
Ouais, il y a 7 ans, j'ai...
4, 5
Sur l'île de France, on était une douzaine.
Douzaine.
Ouais, sur l'île de France. Hein. Maintenant,
en Seine-Saint-Denis.
En Seine-Saint-Denis, on devait être 3.
3, oui.
Ouais. Là, on est une bonne quinzaine, là, maintenant. Facile.
Et voilà, je suis avec Jérôme et Esther Silbert, qui nous continue maintenant. On voit sa recette de porc au coq ou carne à l'antechana.
Donc là, il faut enlever la marinade de la viande pour pouvoir cuire la viande.
D'accord. Donc on verse comme ça et on enlève tout le jus.
Dans
quoi,
une
finalement.
Passoire, voilà. Et on garde la marinade, faut pas l'acheter. Hein, parce que ça va nous servir après.
Et on garde la marinade.
Il faudrait une grande poêle. Une poêle.
Donc j'ai foutu la grande poêle. Non, une spep. Bah oui, d'accord, une poêle.
Tu sentais quel accent ? De quelle région ?
C'est indifférent.
Indifférent.
Indifférent, oui.
Il faut mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Encore ? Dis donc, qu'est-ce que tu bouffes comme cuillère à soupe ? Toi, c'est incroyable, quoi. Heureusement que j'en ai une douzaine.
Non, mais on peut
on met des cuillères
la
partout.
Même.
On peut laver les
C'est pas très Covid, c'est pas très
C'est
COVID.
Toujours de l'huile d'olive qui va dedans. L'huile d'olive, c'est Dieu, hein. De toute façon, tu peux rien y faire.
Ah, c'est vrai. Ouais.
Bon, bref, okay. Là, il faut ajouter les morceaux de viande parce que l'huile d'olive, elle commence à être trop chaude si elle est.
D'accord,
si elle
on met les morceaux de viande, il faut qu'ils soient saisis.
C'est ça, pour que ça cuise de tous les côtés le plus possible, que ça dort.
Ok.
Pendant à peu près 5 minutes.
Ça, c'est pas long, c'est bien, ça me plaît ça.
On met la marinade, on déglace. Et on gratouille un petit peu pour faire
cuillère
sortir
en bois.
Les
cuillère
ouais,
en bois.
Cuillère en bois, tout.
Toujours.
Cuillère en bois, d'accord.
Bois d'olivier,
c'est
on peut.
C'est la journée des cuillères.
Je sais pas si,
si.
Bois d'olivier,
en Tunisie, ils le
beaucoup.
Font.
Ah ouais,
ouais.
D'accord.
Moi, j'en ai,
ah,
toi, j'ai, j'en ai chez moi.
Ouais. Je sais et pas là, si c'est très bon pour les oliviers, mais bon.
Olivier mort.
Ah, t'es sûr?
C'est pas Olivier Mine, c'est Olivier
mort.
Ah, je l'ai.
Ah, ouais, pas mal, pas mal.
Rapide, celle-ci.
Ah, ouais, 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 très bien. Pardon. Très bien.
Moi, je le trouve nul à chier, mais si vous, si vous, ça vous fait rire. Franchement, on va vous faire un petit carnet.
Non, mais je me mets au niveau, c'est tout. Et on oublie de faire des jeux.
On essaye de te courir blagues. Après avec nos blagues. Donc là, on fait cuire 3 minutes, pas plus. S'il vous plaît, avec la marinade.
3 minutes, d'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça s'évapore du tout. Faut
voilà,
que ça reste comme ça.
Ça reste
surtout continue. Pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pinard déjà là-dedans. Oui, ok.
Et là, maintenant, on ajoute les coques.
Les coques.
Et on laisse à mijoter 5 à 8 minutes sur feu moyen.
On referme.
Ah, c'est super
non,
court
non,
en fait.
Ouais.
C'est super
parce
court.
Parce que si tu fermes trop, en fait, la température elle s'élève trop et les coques elles cuisent.
Et les frites, là, faut pas qu'on les sorte là.
Non, non, elles sont encore en train. Non, non, regarde, elles ont l'air.
D'accord, d'accord, d'accord. Mmh. Ok, ok, ok.
Bah, faut attendre. Hein.
Et bah, et pendant qu'on attend, tu peux peut-être m'expliquer comment tu fais pour tes pickles.
Ah, les pickles.
Le nom me fait marrer, moi.
Ah, c'est bon.
Alors, moi, j'ai une voisine à la campagne, elle me fait des pickles. Elle m'a expliqué comment faire. J'arrive jamais à les faire.
Pareil,
bah, c'est simple à faire.
Vas-y, vas-y, envoie. Vas-y.
Tu prends des légumes, n'importe lesquels.
Genre, je prends une tomate.
Non.
Non, alors, mauvais choix.
Non.
Donc, alors,
oignon,
arrête de dire, Esther, tu prends n'importe lesquels.
Arrête
de dire, tu prends n'importe lesquels.
Oignon, chou-fleur, navet, carotte.
Toi-même, j'ai envie de dire.
Cornichon, capre. Je sais pas
andouille,
ce que tu veux.
Crétin.
Tu peux mettre une andouille, mais ça va être bizarre.
Bon, on continue, l'écoute pas, l'écoute pas.
Vas-y.
Et il faut que tu prennes des légumes, si possible, sans tache et sans défaut, parce que sinon
bio,
la pourriture...
Alors.
Si, tu peux. Mais sinon la pourriture risque de s'installer dans ton pickle.
D'accord.
Surtout si tu veux le garder longtemps.
D'accord. Voilà. Donc,
okay.
On prend chou-fleur, par exemple.
Alors, chou-fleur, tu défais les petites têtes, là, comme ça.
Ouais, non, mais rentrons
tu
pas dans le détail. On n'a pas le temps, c'est cuit, là. Dis-moi juste comment on fait.
Tu tailles tes légumes en tranches fines.
D'accord.
Tu fais bouillir ton vinaigre avec le vinaigre, l'eau, le sucre.
Ah, donc
c'est
tu mets 100
grammes
de vinaigre, 100 grammes de sucre, 100 grammes d'eau.
Voilà.
Tu fais bouillir.
Tu fais bouillir.
Ah, je savais pas.
Tu...
C'est ça que je faisais pas, en fait. Moi, je faisais ça comme les cornichons.
Exactement.
Mais les cornichons, tu fais bouillir aussi. Mais tu mets pas tes légumes dedans au moment où tu fais bouillir. Tu fais juste bouillir tes liquides avec le sucre.
Merde.
Tu mets tes légumes dans ton bocal.
J'ai jamais fait ça.
Et tu
c'est pour ça que c'est dégueulasse, mes cornichons.
Quelle découverte.
Ben oui, non, mais c'est vrai, c'est découverte.
Oh,
attends, mais pour les cornichons aussi,
bah
tout
pareil.
Ça
c'est la même
100
chose.
Grammes de vinaigre, 100 grammes de sucre, 100 grammes d'eau.
100 grammes d'eau.
Ou multiplié.
Oui, voilà. Selon
peu importe,
ce que tu
peu
veux,
importe.
Peu importe.
Mais parce que c'est facile,
tu mets tes
en plus, 1 fois 2, ça fait...
Tu mets tes légumes dans un bocal, oui. Tu verses la préparation chaude, tu fermes ton bocal et tu l'oublies, et c'est bon.
Est-ce que tu peux mettre un peu de laurier?
Attends, ah oui.
Ou... Tu mets du laurier,
tu mets les légumes pendant que c'est chaud.
Oui.
Oui,
en plus,
faut que ça soit saisi.
Donc il cuisouille un tout petit peu.
Il cuisouille un peu et
mais
il
c'est trop fort.
Le...
Moi je t'en remercie. Voilà, fin de l'émission. C'était vraiment. Ça je savais pas. Ça fait
des pickles.
Pickles
d'oignon rouge, c'est trop bon.
Oui, je l'ai fait, mais j'ai fait pickles d'oignon rouge, ça n'a pas du tout marché. C'est dégueulasse.
Mais
c'est
non,
en haut
c'est
de.
Bon.
Je
l'arrête
tous les jours un peu comme l'huile d'olive.
Toi, non mais sérieux, stop.
Le plat, plat, plat. Tu dis, le plat, tu manges.
Eh bien, je suis dans la cuisine avec Jérôme et Esther. Eh oui, Esther a quelque chose,
frites,
d'ailleurs.
Il faut sortir les frites, sinon ça va cramer.
Ah d'accord, je peux même pas faire mon gag. On sort les frites. Super, on sort les frites, oui, parce que là, excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous. Donc, on sort les frites. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
On les sale.
Ouais, on les sale, on les poivre. On place la viande avec sa marinade et ses coques dans un plat en terre cuite.
Oui,
ouais,
j'ai pas, écoute,
il
là,
est
j'ai
gentil
pas de
habituellement,
non,
vous inquiétez pas.
J'ai pas de plat en terre cuite,
plat,
on va faire ça dans ce plat-là que t'as
plat,
là, c'est
ouais.
Pas grave, je l'ai eu parce que j'avais plein de points Intermarché, t'es gentil.
Ah, tu fais de la pub pour le truc, toi.
Pour quel truc?
Non, il fait de la pub en général.
Mais si je vais à l'Intermarché, je dis Intermarché, tu dis quoi quand tu vas
à
l'Intermarché?
Tu fais de la pub
hein? Moi, je vais plus à l'Intermarché.
Tu vas plus à l'Intermarché? Pourtant, c'est.
Moi, j'ai des.
C'est les gens qui sont près des gens, des commerçants d'à côté.
Du papier toilette.
Alors là, tu fais de la pub.
Ouais. Okay, avant, tu ne fabriques pas toi-même
non,
le papier toilette.
Non, je ne vais pas le faire, ça.
Le PQ Bio,
tu as fait la pub.
Si, le PQ Bio, ça existe.
Tu sais qu'il a fait les pubs Yop quand il était jeune.
Yop. Ah ouais.
Ah, j'ai fait toutes les pubs. Tu peux imaginer. T'imagines une nannerie, je l'ai fait. Vas-y, envoie.
Donc, dans le plat, tu mets ta viande, tes coques.
La marinade.
Les frites. Et ensuite, tu mets la marinade. Ça mouille un petit peu les frites. C'est un peu bizarre.
Mmh. Ouais.
Mais en même temps, ça ramène du bon goût dans les frites.
Ouais, très bien. Ça c'est bon. Mmh. Voilà.
Et c'est prêt.
Et c'est prêt.
Non, 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 et le persil.
Ah oui, c'est vrai, il faut mettre du persil.
Attends,
bah, c'est vrai. Tu peux le mettre là maintenant, hein, après les frites.
On met, c'est une déco alors.
Ouais, ça ramène un peu de.
Elle en a rien à foutre du persil, je note. Rien à foutre du persil. Voilà, parce que normalement, si je regarde la recette que tu m'as gentiment apportée, il faut mettre en dehors du feu, ajouter le persil finement haché.
C'est vrai.
Il faut pas être dans le
feu.
Jeanne d'Arc, elle peut pas faire le plat, quoi, par exemple.
Non, parce que sinon le persil est cuit, moi, et il ramène de l'amertume.
Moi je dis quand même, ça nous enlève une grande partie de la population.
Olivier Mine et Jeanne d'Arc, on est bon là.
D'accord. J'ai un conseil culture si vous voulez.
C'est quoi?
Bah, je donne des conseils
Sur des choses à regarder.
Vas-y. Donc il y a un très beau film sur Johnny Montreuil qui s'appelle Demain c'est loin.
Ah oui.
De Bertrand Vaccarinas.
C'est vrai. Ouais.
Que vous pourrez trouver sur Sourde Oreille. Donc c'est si tu veux savoir qui est Johnny Montreuil et ce que c'est Montreuil et la musique, et bah tu tapes Demain c'est loin sur YouTube et tu le verras. C'est un très beau film. Je vous conseille aussi pour voyager. Alors, je l'ai noté parce que non, j'ai fini.
Okay.
Je n'ai pas fini, pardon. Putain, merde. Bon, c'est pas. Excusez-moi.
Esther,
c'est moi.
Ça a été un plaisir de te voir.
Ouais.
Ça a été trop bref.
Ouais.
Jérôme, c'est pareil.
Ah, mais merci.
J'ai proposé à notre ami Waël qu'on puisse, dès qu'on pourra un peu se voir, se faire des choses ensemble, se voir, enfin qu'on aille un peu sur les lieux pour voir ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, au mur à pêche. Obligatoire.
Chez
vous connaissez le mur à pêche quand même.
Bah en fait là à ce moment-là on sera plus au mur à pêche.
Ouais,
on va te compliquer la vie.
Vous serez où?
On n'est plus au mur à pêche déjà depuis le mois de juillet dernier.
C'est pas exactement ce que vous m'avez dit. Si.
Non.
On me l'a dit, non?
Non.
Oui,
non.
C'est moi.
Il l'a dit. Pas la vie, j'ai actualité. J'habite et j'avais.
Alors là ça va être où?
Dans le bas Montreuil.
Le bas Montreuil.
Chez les bobos.
Ah là.
Ah c'est officiel.
Ouais.
Ah, trop bien, putain!
Et l'adresse, c'est quoi?
Ah, on la dira quand on aura signé.
Ouais, non, on attend d'avoir signé.
On n'a pas signé l'adresse et on touche du bois, ça.
Et de la
peau
de singe.
Jérôme, qui flippe sa mère, il n'est pas sûr de signer, là, sur ce truc-là.
Non, bah, en fait, ça fait 3-4 fois que ça nous.
Ah, ça vient, ça s'en va, ça revient, c'est fait
super,
de tout petit rien. Et oui, etc.
Le saviez-vous? Tout ce qui est là n'est pas forcément là.
C'était une émission du Poste Général.